C'est dur, la vie de retraité, hein, Jacques. C'est affreux, hein. Moi, j'ai bien là de ces billets pour justement être bien occupé. C'est ça l'histoire.
Oui, je l'ai acheté.
Toi aussi.
Oui.
Bon, alors.
Je l'ai acheté quand il est sorti.
Oui.
Oui, c'est... Bon. Alors, je vais vous lire ce petit document qui est issu d'une restitution de réunion que j'ai animée sur le grand débat à propos de la question 6. Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin, sinon, quel type de service public vous manque dans votre territoire qu'il serait nécessaire de renforcer? Alors, on a dit, bon, c'est bien joli. On nous pose cette question, il faut d'abord nous dire ce que c'est que le service public. Donc, on a penché là-dessus. Bon, je vais vous lire ce petit texte et puis on en parlera. On ne peut répondre à cette question sans avoir auparavant répondu à la question préliminaire, qu'est-ce qu'un service public? Or, la réponse claire ou une réponse claire à cette question fondamentale, de laquelle découle rien moins que la pertinence ou la possibilité même de ce débat sur les services publics, est impossible pour la bonne et simple raison qu'il n'existe aucun texte dans nos corpus législatifs qui en détermine les règles. Et là, beaucoup de gens ont été surpris de découvrir que cette notion, que cette entité de service public dont on nous parle, juridiquement, n'était pas inscrit dans la loi. Bon. En effet, la notion de service public n'est pas définie dans la Constitution, ni dans aucun des 74 codes juridiques qui en découlent, hein, que vous connaissez tous par cœur, bien sûr, code civil, code du commerce, code du travail, code des collectivités publiques, code de la famille, code du cinéma, code pénal,
code
fiscal.
Code sécurité sociale.
Seuls existent de façon informelle des énoncés fallacieusement dénommés loi des services publics. Parce que c'est vrai que si vous cherchez sur Wikipédia ou sur Internet en général, vous allez voir apparaître un truc qui s'appelle loi des services publics ou loi de Roland. Et loi de Roland, du nom d'un juriste français. Alors, on pourrait dire ce Roland, bon, ça a été un premier ministre ou un ministre des Finances. Non, c'est un prof, un juriste prof de droit, décédé en 1956, qui avait planché bénévolement sur le sujet. Voilà, ici. Et donc, ces dissertations, j'ai appelé ça les dissertations de Roland, elles sont d'ailleurs pas conçues comme au départ, il ne les a pas faites. Pour que ce soit des textes, ce qu'on appelle des textes de droit positif, c'est-à-dire des énoncés qui peuvent être inscrits dans des codes, voire dans la Constitution.
Je cherche.
Ni même des énoncés normatifs, c'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas à énoncer des normes, mais comme des règles de juste conduite. Ils se disaient, à mon avis, un service public, ça devrait être ceci, cela, qui découlerait de la nature même du service public et qui en déterminerait l'essence. On est un petit peu... On avait parlé, quand on avait cherché à identifier ce que c'était qu'un service public, il y a souvent le mot intérêt général qui arrivait. Hein. Mm-hmm. Bon. Donc là, il y aurait une espèce d'essence, un petit peu comme on parle de l'essence de l'intérêt général, une essence du service public qui en déterminerait la nature. Et bon, ce serait les trucs de Roland, dont on va voir un petit peu de quoi ils sont constitués. Ce qui signifie en termes clairs que ces principes se détermineraient par rapport à eux-mêmes, ce qui constitue une bizarrerie exorbitante du droit, c'est le même principe que c'est la même idée qu'il y a dans l'intérêt général, c'est-à-dire qu'il y a une entité, une espèce d'essence d'immanence, et donc les principes découlent de cette immanence, et à partir du moment où c'est des principes, ces principes, ils déterminent l'immanence. Bon. Ces principes sont, alors, il y en a trois, la continuité, qui implique que le service public doit être assuré régulièrement. Deuxième principe, la mutabilité. Ce service public désigne, mutabilité, c'est-à-dire l'adaptation critères d'adaptation. Et adaptation à quoi ? Ben, l'évolution des besoins collectifs et exigence de l'intérêt général. Donc là, on voit qu'il y a une référence qui est très claire. Clair que c'est une référence, c'est pas dire que c'est clair la façon dont c'est énoncé, qu'un service public, c'est défini par l'intérêt général. Bien. Et troisième principe, l'égalité. Égalité qui interdit la discrimination entre les usagers du service. Donc, continuité, on doit pouvoir toujours en profiter. Mutabilité, ce service, ça doit évoluer quand les besoins de la société évoluent. Le service public évolue, c'est-à-dire il y a l'idée qu'il s'en crée de nouveau, pourquoi pas, ou que d'autres disparaissent, ils ne sont plus nécessaires. Et l'égalité, pas de discrimination. Alors, discrimination, c'est large, hein. Discrimination par l'argent, par... bref. Bon. Alors, on remarquera que le critère de gratuité n'est pas retenu comme critère obligatoire. Il a simplement été évoqué par Roland, parce qu'il a disserté après, hein, comme étant facultatif. Bon, pourquoi pas. Les services publics peuvent donc, selon ces non-lois, ce sont des non-lois, être soit gratuits, soit payants. Lorsqu'ils sont payants, ils se nomment SPIC, comme on avait parlé, Service Public Industriel Commercial. Mais sans qu'on nous explique quel est le principe qui va déterminer que le service public est gratuit et payant. Bon, on nous dit, il y a des services gratuits, les services publics gratuits, services publics payants. Oui, bon, mais...
SPIC, c'est pas d'intérêt communautaire. J'avais noté ça, il me semblait.
Comment ?
SPIC, c'est pas d'intérêt communautaire. Service public,
non.
D'intérêt communautaire.
Non.
Commerce.
Service public industriel et commercial.
Moi, j'avais entendu parler des PIC, mais bon, c'est établissement public à caractère industriel et commercial. C'est le cas des FEU et des DF, on entend. SPIC,
Oui, PIC.
C'est le pareil.
Enfin, bref, ce qui compte, c'est l'idée qu'il y a des services publics qui soient payants et des services publics qui soient gratuits. Alors
après, il y a l'esprit et la règle, quoi, je veux dire. Enfin, à mon avis, l'esprit du service public de 46, comme je suis né en 46, j'ai forcément l'esprit, tu comprends. Je pense que c'était quand même l'idée des personnes du Conseil national de la résistance qui ont écrit le préambule de la Constitution, parce que le service public découle malgré tout du préambule de la Constitution.
Oui.
Et donc, j'ai perdu ce que je voulais dire dans l'histoire.
Que dans l'esprit, donc c'était il y a,
voilà,
il y a
dans l'esprit, à mon avis, dans l'esprit des rédacteurs du Conseil national de la résistance, l'idée était la gratuité des soins, par exemple, et également l'idée était la gratuité de l'énergie, alors qui n'a jamais existé, mais il faut reconnaître. En 50 ans d'existence, Électricité de France a vu son coût de l'énergie en francs constants baisser régulièrement. Parce que c'était un service public. C'est plus le cas maintenant depuis 20 ans. Hein. Mais jusqu'en 2000, le coût de l'électricité était sans arrêt en train de décroître en euros ou en francs constants. Dans l'esprit du service public, c'est-à-dire d'atteindre la gratuité. Moi, je reste convaincu qu'il y a une notion dans le service public de recherche de gratuité.
Mais attends, Jacques, ce que tu dis, c'est très intéressant. Mais c'est intéressant parce que ça dénote justement ce paradoxe et ce flou énorme dans la notion de service public. Tu dis, je suis convaincu que le service public, ça veut dire ça. Je suis convaincu que dans le service public, il y a cette idée. C'est les gens du CNR qui l'ont écrit. Oui, mais ils nous écrivent, les gens du CNR. T'as vu ce qu'ils nous écrivent ?
Non, mais
bon, alors.
Je t'ai dit, c'est l'esprit. C'est effectivement pas la lettre, il n'y a rien d'écrit.
Oui, voilà. Ah ben, alors, pour l'instant, on n'est pas du tout. On n'est pas du tout en train de critiquer au coup. On dit qu'on est en plein flou.
Flou.
Voire arbitraire.
C'est flou.
Alors, si nous examinons attentivement ces trois principes, dont le caractère de droit coutumier est, soit dit en passant, incompatible avec la nature obligatoirement écrite du droit français. Alors, voilà. Toi, tu nous parles de droit coutumier, qui se serait institué à partir de la libération. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais ça voudrait dire qu'en France, il y a une partie du droit, par exemple le droit des services publics, qui est un droit coutumier. Mmh. Bon, alors, il faudrait qu'on nous le dise. Enfin, on dit, attendez, en France, on a une partie du droit. Qu'on fasse référence à ça. Dans tous les débats sur le service public, dans toutes les références au service public, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses dans l'actualité, les débats entre les différents protagonistes, contradicteurs, on ne fait jamais référence à une charte du service public qui soit issue de même d'un droit coutumier qu'on énoncerait. Parce que le droit coutumier, on l'énonce, on dit, allez, il n'est pas inscrit là à la page 32 du code des collectivités publiques, ou du code des services publics, mais il est. Voilà. Nous constatons qu'aucun des trois critères n'est respecté par les services dits publics. C'est-à-dire ces critères, qui sont des critères, on va dire, de droit coutumier, même pas affirmés comme tels par ceux qui, par les services publics, le critère de continuité n'est pas respecté pendant les grèves. Attention, on fait pas de... On dit pas... On constate, hein.
Bon. Ah non, mais c'est fou, ça. Mais tu peux pas... Moi, ça, j'ai réagi quand j'ai lu ce
truc-là.
C'est pas possible.
D'accord.
T'as eu une coupure totale d'électricité en France ? C'est arrivé en 78 et c'était pas une grève. Il n'y a jamais, à part le 19 décembre 78, il n'y a jamais eu de coupure totale d'électricité en France. Donc il n'y a jamais eu perte de la continuité du service public de l'électricité.
L'électricité.
Voilà.
Mais les hôpitaux non plus.
Et les hôpitaux non plus.
Les pompiers non plus.
Ben voilà,
non,
donc on peut
de
pas
la
dire.
Non plus.
On peut pas dire que la grève.
La police non plus.
Faut arrêter, quoi.
Les transports
non plus. Ah, et c'est minimum, service minimum.
Ah oui,
mais c'est un train sur deux, un train sur trois.
Ah oui,
mais c'est récent.
Maintenant, oui.
Non. Avant, non, il n'y avait pas total. Il n'y avait pas de grève totale. Quand j'étais plus jeune, les trains circulent, et le train beaucoup. Les trains circulaient même.
Les TCL, ils peuvent être en grève.
Oui, mais il y a toujours quand même un service minimum assuré. Il me semble.
Sauf le 1er mai.
Oui, mais le 1er mai, c'est la fête du travail. Personne ne travaille même pas la presse.
Je suis désolé, le 1er mai, vous avez des l'électricité. Il y a des abrutis qui bossent.
Les hôpitaux aussi.
Les hôpitaux aussi.
Oui.
Ah bah oui, non, mais c'est pas normal, ça.
Il faut tout couper. Le
1er mai.
Ou alors, il faut assurer les transports.
Non, il faut assurer.
Si, les trains, ça marche,
le 1er mai. Paraît important.
Mais pardon. Est-ce que c'est un service public
mon mec, il travaille dans les transports, il travaille le premier.
Non, mais du coup, tu vois, comme il n'y a rien de...
Alors, il faut s'entendre sur le mot continuité.
Travail.
Si on a un réseau, par exemple la RATP, la SNCF, qui assure un certain planning, la continuité, c'est que ce planning soit assuré. Un service minimum, ça n'est pas la continuité. C'est... Non, on parle en termes strictement arithmétiques. Bon. Un service minimum, c'est pas la continuité. Quand tu as 1000 trains par jour et que tu n'en as plus que 10, c'est pas la continuité. Le service minimum, c'est quelque chose...
Qui assure le minimum.
Qui assure le minimum, qui assure pas la continuité. Continuité, ça veut dire que ça continue toujours pareil.
La même cadence.
Oui, bon. Alors, le deuxième principe, mais pour l'instant encore, bon, ça ne mange pas de pain, hein. Le deuxième principe, c'est le critère de mutabilité, ne peut pas être respecté dans la mesure où l'intérêt général n'est pas juridiquement défini. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a un critère de mutabilité qui dépend de l'intérêt général tant qu'on n'a pas défini ce que c'est que l'intérêt général. C'est la logique
c'est
même.
C'est différent de l'intérêt particulier.
Non, mais.
Ah ben oui, mais. Donc.
Dire quelque chose de différent, c'est pas donner une définition.
C'est l'intérêt de la
majorité. Si je te demande la définition d'une baleine rose et que tu me dis c'est pas un lapin, bon, c'est pas une définition.
Bon, intérêt, on est capable de définir ce que c'est qu'un intérêt.
Non, mais il n'est pas défini, intérêt général.
Il y a deux mots dans intérêt général. Il y a intérêt et il y a général.
Oui.
Bon, l'intérêt, on voit ce que c'est que l'intérêt quand même. Tu vas me dire, ben c'est... Tu sais définir ce que c'est que l'intérêt ? Non, mais voilà. Là, je pense qu'on est en train de sodomiser des dignitaires. Mais bon, c'est un terme enculé des bouches. Bon, c'est... Non, mais c'est...
Enregistré.
Ou pas, hein.
Ah ouais. Alors, non, mais c'est intéressant. L'intérêt général, où est-ce qu'il est défini ? Où est-ce que j'ai une définition d'intérêt général ? À quel endroit ? Où est-ce qu'il faut que j'aille pour trouver ? C'est-à-dire que si moi je veux savoir si telle quelque chose.
Alors, je suis Veolia, je vends de l'eau pour faire du fric. Ben, pour moi, ce n'est pas l'intérêt général, ça. L'intérêt général, c'est de vendre de l'eau au coût le plus faible pour tout le monde.
Non, c'est de la donnée.
Oui, mais la donnée,
c'est de la donner l'eau et de la dépolluer, ça c'est de l'intérêt général.
Si on peut la donner, voilà. Et je dis déjà au coût le plus faible. C'est ce qu'on avait fait pour l'électricité. Au coût le plus faible. Ça me paraît déjà.
Mais ça ne doit pas avoir de coût l'eau.
Non mais attendez, on n'est pas.
Déjà. Il faut pas la polluer, alors.
Excusez-moi, on n'est pas dans le débat, c'est est-ce qu'il y a un principe quelque part qui est écrit qui nous permet de dire que telle ou telle chose, c'est d'intérêt général ou pas ?
Non. C'est pour ça que les politiques, ils en jouent.
Non, mais...
Il n'y a rien d'écrit.
Ouais, pour l'instant, on va avancer. Hein. Et pour l'instant, on essaie de poser des choses factuelles. Il n'y a pas de définition d'intérêt. Chacun a son idée de ce que doit être l'intérêt général. Il n'y a pas de définition.
Il n'y a pas d'encadrement de l'intérêt général, c'est ça que tu veux dire ?
Non, il n'y a
pas de cadre de l'intérêt général.
Il n'y a pas de définition tout court.
Oui, mais...
Chacun met
si
dedans ce qu'il veut.
Si tu définis, forcément, tu cadres quelque
attends,
chose.
Attends, tu respires de l'air, quand même.
Oui.
Est-ce que tu as la définition de l'air ? Il faut que tu demandes la définition de l'air, parce que sinon, tu ne peux pas respirer de l'air.
Alors,
attends, il faut arrêter de... Là, c'est quand même des questions...
L'air, c'est O2, une particule d'oxygène avec...
Non, mais il n'y a pas que ça, hein, dans l'air. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a hélas.
Et ça définit.
Mais je veux dire, on n'a pas besoin. Enfin, il y a des termes qui me paraissent quand même évidents.
Voilà. Alors, attendez. Ça, c'est moi, très, ça c'est très intéressant évident. Que Jacques
l'intérêt dit. L'intérêt général.
Jacques nous dit l'intérêt général. Parce que le débat sur la notion d'intérêt général, hein, c'est pas un débat qu'on va évacuer comme ça, parce que soit on va s'énerver. Ça, bon, il faut respecter les avis de tout le monde, et c'est quelque chose de très compliqué. Bon. Jacques nous dit quelque chose qu'on entend extrêmement souvent, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est l'intérêt général n'a pas besoin d'être défini, parce que tout le monde comprend très bien ce que c'est que l'intérêt général. Est-ce que je me trompe ?
Oui, non, c'est ça.
Voilà. Bon. Donc voilà, on a une position qui est extrêmement connue, extrêmement répertoriée, tout à fait respectable, qui est très intéressante à la contradiction. Bon, on n'en est pas là. Mais il y a, lorsqu'on dit, quelle est la définition de l'intérêt général ? On a Jacques qui nous dit, l'intérêt général n'a pas besoin d'être défini. Il va même plus loin, il nous dit, bon, de toute façon, on se prend la tête, parce qu'il y a des fois des choses qu'on n'a pas besoin de définir qui sont évidentes.
Ouais. Mais non.
Voilà. Non, mais...
L'intérêt général, c'est ce qui profite à tous. À tous.
Alors, Hugo. Hugo. Chacun va s'exprimer un petit peu. Enfin, ceux qui veulent.
Si on ne cherche pas à comprendre le sens qu'on a voulu donner à cette expression-là, peut-être que chacun sait intuitivement ce que ça veut dire. Et peut-être que chacun se fait une définition différente de cette expression. Contrairement à l'air, c'est factuel, c'est scientifique, enfin, ça peut être défini par les particules, par les éléments, etc. Mais l'intérêt général, c'est une abstraction. Donc, on n'a pas forcément la même conception de cette chose-là.
Oui, et puis on peut donner une définition qui nous arrange plus. Nous, peut-être, en fait. Style Veolia, par exemple, comme tu disais, ben, lui, il va dire que l'intérêt général, c'est que l'eau soit bonne, soit propre, soit potable et tout.
Et soit vendue.
Mais lui, son intérêt, c'est quand même qu'elle ait un certain prix, qu'il se fasse du bénéfice dessus.
Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que ça ne peut pas
et
être.
Et ça va être son intérêt.
Qu'il fasse un service public de l'eau, pour moi. Ah,
donc on en revient au service public, donc c'est plus l'intérêt général. Voilà.
Bon.
Non, moi je disais que c'est que ça va pouvoir profiter à tout le monde, à tous, à tout le monde, pour moi, c'est l'intérêt général. Mais effectivement, je rejoins Hugo, c'est que chacun peut donner son interprétation de ce que c'est que l'intérêt général. Et effectivement, tu as raison, c'est pour ça qu'il faut que ce soit cadré, défini. Qu'est-ce qu'on entend par intérêt général ?
On fait un tour de table, on a près 8 personnes, 9 personnes assises autour de la table, on aura 9 définitions différentes de l'intérêt général. Peut-être qu'il y en aura quelques-unes qui se recouperont entre elles, mais qui, dans les grandes lignes, elles iront dans le même sens. Mais ça ne veut pas dire que ce seront les mêmes définitions.
Ouais, du coup, c'est quoi l'intérêt général ?
Ta définition va bien, non ?
Alors, il y a deux choses. Soit on pense qu'il doit y avoir une définition, soit on pense plutôt comme Jacques que ce n'est pas la peine de le définir parce que c'est quelque chose qui s'impose à tous, comme une évidence, hein, deux positions. Et puis ensuite, quand on définit, il s'agit de savoir comment on définit. Très souvent, quand on demande à quelqu'un de définir quelque chose, il vous fait une énumération. Il vous dit, ben oui, c'est ça, par exemple, c'est comme c'est ça, par exemple, c'est ça, 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 ça. Bon. Une définition, c'est pas une énumération, c'est pas non plus une définition par son contraire, c'est un principe. Un principe qui permet ensuite de, sur chaque cas qu'on a énuméré, de regarder le cas et de dire, est-ce que ce cas rentre dans le principe ? Ah, ben c'est l'intérêt général, ce cas ne rentre pas dans le principe, c'est pas l'intérêt général. Donc là, c'est ça la difficulté, parce que c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué à définir les termes qu'on emploie. C'est une, alors mon sens, hein, pour être personnel, c'est une des lacunes importantes de la communication dans notre société moderne, c'est que tous les termes importants ne sont pas définis. Et que chacun y met chacun y met son vécu dedans, son idéologie, hein, et qu'il n'y a pas, je pense volontairement justement, de définition qui soit imposée, alors même pas question imposée, déjà proposée. Oui. Supposons, imaginons, on parle beaucoup du RIC, faisons un référendum pour définir ce que c'est que l'intérêt général, avec différentes propositions. Imaginons, bon, là on aurait ainsi la population qui se déterminerait sur une définition de l'intérêt général, c'est-à-dire un principe. L'intérêt général, c'est quelque chose qui fait ça, 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 ça et ça, donc dans le principe. Et puis, avec ce principe, on va pouvoir dire si telle activité est d'intérêt général ou pas. Eh bien, ce type de questionnement citoyen se heurterait justement à une idée très très répandue que tu exprimes très bien, qui est que l'intérêt général ne doit pas justement être juridicisé, je dirais, parce que c'est quelque chose qui s'impose. Bon, et
rapide droit coutumier, ça serait clair.
Ah, mais là, c'est au-delà du droit coutumier, hein. C'est une idée qui doit être immanente, quelque chose que tout le monde comprend bien, qui est très, très bien exprimé par Jacques en disant, mais là on perd notre temps, on encule les mouches, parce qu'en fait tout le monde sait très bien ce que c'est que l'intérêt général. Bon, alors attendez, on va avancer, on aura l'occasion de revenir, parce que l'intérêt général, il plane au-dessus de notre constitution et de tout notre texte juridique, puisque la notion d'intérêt général, elle fonde tout le droit public. Ça, bon, tous les juristes vous le diront, c'est ce qu'on apprend en droit, droit constitutionnel. La notion d'intérêt général fonde tout le droit public. C'est-à-dire que tout le droit public, mais la plupart des fondements des lois de droit public sont basés sur l'intérêt général. C'est-à-dire, si on demande au législateur, mais pourquoi il y a cette loi ? Parce qu'elle va dans le sens de l'intérêt général. Voilà. Bon, alors. Alors, ensuite, on dit, alors, attention, c'est pas. Encore une fois, c'est pas une Bible, ça. Hein. Le critère d'égalité n'est pas respecté dans le cas des services publics payants, puisque les citoyens qui ont de faibles revenus ne peuvent pas les utiliser. Hein. Quand Roland nous dit. Il y a le troisième principe numéro 3, c'est l'égalité, qui interdit toute discrimination entre les usagers. Discrimination par le fric, c'est une discrimination. Hein.
Oui.
Ben,
c'est clair.
Bon. Alors, les simili-lois dites des services publics ne nous sont donc d'aucune utilité pour nous aider dans la difficile tâche qui est celle de définir ce qu'est un service public. On a des lois, soi-disant, qui ne sont pas des lois, on les lit. Et ça nous avance pas plus. Nous voici donc revenus à notre point de départ, et nous ne saurions trop conseiller aux législateurs de doter notre Constitution d'un ou plusieurs articles supplémentaires définissant clairement la nature, la mission, les caractéristiques d'un service public. La nature, la mission, les caractéristiques. Sans ce fondement institutionnel, ce domaine extrêmement important pour les citoyens restera tel qu'il est, c'est-à-dire livré à l'arbitraire d'un pouvoir évoluant librement dans une zone de non-droit. Un pouvoir qui va dire un jour « ça c'est service public » et le lendemain il dira « ça c'est pas service public ». Ou bien « ce service public qui était comme ça, à partir de maintenant il sera comme ça, il sera comme ci, il sera gratuit, il sera payant, il sera réservé à un tel ». Voilà. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de cadre juridique. Il est d'ailleurs paradoxal, mais tout autant symptomatique, par rapport à nos conclusions, que ce thème des pouvoirs publics soit le seul des trois thèmes du grand débat à ne pas être fondé sur un corpus législatif sérieux, à l'inverse de la citoyenneté, de l'écologie et de la fiscalité, qui font l'objet à eux seuls de plusieurs milliers de lois. Compte tenu de ces observations, voici une proposition de modification constitutionnelle institutionnalisant la notion de service public. Donc, on avait quatre thèmes dans le grand débat du PR, président de la République.
Moi, je connais le PR, mais c'est une chose.
Non, moi, j'ai dit le PR, c'est pas personnel. Les gens disent, non, c'est pas personnel, c'est le président de la République. Il peut s'appeler Tartopion.
C'est le PR, pour moi, c'est une chose.
Oui, le PR. Le PR. Je fais exprès. Alors, démocratie, citoyenneté. Ah, ben, c'est toute la Constitution. Transition écologique. Écologie, bon, c'est la charte de l'environnement. Fiscalité de dépenses publiques, alors c'est le Code général des impôts, le CGI. Et les services publics, c'est rien. Est-ce que vous êtes content des services publics ? Voilà. Bon. Donc, on a proposé, on a fait un...
Qui ça ? Dans le...
Oh, ben, alors, on en a parlé comme ça dans le groupe, et puis je l'ai formalisé.
Ici, là ?
Non, c'est dans le cadre des groupes du Grand Débat.
De l'EPR, enfin du PR.
Oui, le grand
non,
débat.
Non, alors, je ne veux pas dire le grand débat du PR. Le PR, il a dit vous pouvez vous réunir, puis vous faites ce que vous voulez.
Et discuter.
Alors, non, mais bon.
Vous pouvez parler de ce que vous voulez, mais pas des salaires.
Non. Alors, Jacques.
C'est ce qu'il a dit, le PR. Hein.
Non, le PR, il a dit vous faites ce que vous voulez.
Non. Je pense pas.
Alors. Je t'écoute.
Bah écoute,
j'ai organisé 9 réunions dans le cadre du grand débat.
C'est dans le quatrième point que tu peux effectivement aborder ce que tu veux.
Ah mais non.
Mais il y a 3 points, les 3 premiers points sont bien formalisés. Non,
tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que tu pouvais organiser des réunions en dehors des quatre thèmes. Alors, les quatre thèmes faisaient l'objet, enfin, on peut les avoir sur le site du granddebat.fr, je ne les ai pas là. Il y avait entre 20 et 30 questions par thème. C'était purement indicatif. Tu pouvais très bien, si tu voulais, organiser une réunion sur l'avenir de l'agriculture biologique, par exemple, ou sur n'importe quel thème. On faisait ce qu'on voulait. Et d'ailleurs, la majorité des réunions locales, d'initiatives locales, on appelle, n'étaient pas sur les thèmes du grand débat. Non, mais bon.
Oui, puisque tu pouvais remplir des cahiers de doléances.
On peut faire absolument ce qu'on voulait. Bon, alors, mais bon, c'est pas le. Alors, l'idée, c'était d'introduire, alors, non pas dans les codes juridiques, mais dans la Constitution, parce que ça nous a paru suffisamment la notion de service public. Dans la Constitution, on a 12 titres. Le premier, c'est de la souveraineté. Ensuite, du président de la République, des relations entre le gouvernement et le Parlement, du pouvoir judiciaire, etc. etc. Bon. Et il nous a paru que le service public, ça méritait d'être un titre dans la Constitution du service public. On propose de le mettre en 5 bis, c'est-à-dire entre le titre 5 et le titre 6. Titre 5, ça doit être des relations entre le gouvernement et le Parlement. Et puis le titre 6, ça doit être des traités européens, etc. Voilà. Alors, c'est noté. Tiens, entre le titre 5, des rapports entre le Parlement, je citais de tête, et le titre 6, des traités et accords communs et accords internationaux. Alors, article 51, puisque là, c'est l'article 51.2. Comme on ajoute des articles, on met des sous-titres. Article 51.3. Un service public est une activité gérée exclusivement par l'État et devant répondre aux critères de continuité, impliquant que le service doit être assuré régulièrement, et aux critères d'intérêt général, impliquant que le service doit répondre à l'évolution des exigences du peuple pour les besoins collectifs. Donc là, on ne fait que répéter les deux critères de Roland. On continue. 51.4. Il appartient au président de la République de déterminer pour un service public donné dans quelles conditions le critère de continuité peut être compatible avec le droit de grève. En tout état de cause, et quel que soit le statut alloué... Alors, si vous voulez, je vais lire dans l'intégralité, puis ensuite on le reprendra point par point. En tout état de cause, et quel que soit le statut alloué aux agents de service public, le président de la République assume la responsabilité du respect de ce critère de continuité dans ce service. 51.5. Un service public peut être gratuit ou payant. Si le service est payant, les bénéfices réalisés lors de la vente des biens ou services sont affectés en tant que recettes au budget général de l'État, ce qui constitue une source d'autofinancement du pouvoir public. 51.6. Sont déclarés services publics gratuits, dont la gestion relève du pouvoir exécutif, en tant que monopole, les fonctions suivantes: sécurité intérieure, sécurité extérieure, diplomatie, justice, perception fiscale. Aucune contribution financière ne peut être demandée aux citoyens pour pouvoir bénéficier de ces services. 51.7. Sont déclarés services publics gratuits, dont la gestion relève du pouvoir exécutif, sans monopole. Les fonctions suivantes: enseignement, santé. Aucune contribution financière ne peut être demandée aux citoyens pour pouvoir bénéficier de ces services. 51.8. Toute activité sociale, industrielle ou commerciale peut être déclarée service public gratuit, payant, monopolistique ou non, à la suite d'un référendum d'initiative exclusivement citoyenne, ayant reçu une signature demandeuse de 2% des électeurs inscrits et ayant obtenu un vote positif de plus de la moitié des électeurs inscrits. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Alors, le critère d'intérêt général est réputé avoir été déterminé par le vote positif des citoyens électeurs. Voilà une définition d'intérêt général qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est de même utile. Article 51.9. La création d'un nouveau service public par voie de référendum est inscrite en tant que loi dans le Code des relations entre le public et l'administration, c'est un code qui existe, et ne peut être modifiée que par référendum d'initiative citoyenne, tel que décrit dans l'article 51.8. Donc, qu'est-ce que... On va engager le débat là-dessus. Alors, le 51.3 répète les deux premiers critères de Roland. Hein. Il dit, un service public, il doit répondre aux critères de continuité et il doit répondre aux critères d'intérêt général. Bon. Mais les articles suivants, comme c'est la coutume, enfin je dirais comme c'est l'articulation technique dans le droit constitutionnel, ça ne suffit pas de dire critères de continuité et critères d'intérêt général si on ne définit pas ces deux critères. Ce que vont faire les articles suivants. L'article 51.4 parle du critère de continuité et l'article 51.5 l'article 51.7 parle du service d'intérêt général.
Oui, mais il n'y a pas de définition.
Si, il y a une définition. Alors, on y vient.
D'accord.
On y vient. Alors, on y vient. Alors, on va prendre les choses une par une. Si. Et si, l'intérêt général est défini. Alors, pour ce qui concerne la continuité, voilà ce qui est dit là-dedans. Il appartient au président de la République, donc responsabilité du président de la République, de déterminer pour un service public donné dans quelles conditions ce critère de continuité peut être compatible avec le droit de grève. Donc ça veut dire.
On peut causer nous ou
pas ? Ah, bien sûr !
Là, ben, je ne sais pas si on peut
ça. Ça paraît gênant.
Voilà. Non, mais moi, ça me gêne.
Oui,
que
oui.
Ce soit un individu, oui, alors que ce soit le Parlement qui,
à la limite,
à la limite décide, ça serait déjà quand même moins pire, alors que ce soit un individu qui décide, bon, alors là, je trouve ça franchement antidémocratique, quoi. Antidémocratique, à ce point-là.
Alors, qui décide de
Continuité.
De ce qu'il entend par continuité.
Non, c'est... c'est pas ce qu'il entend par continuité, c'est les
c'est droit de grève.
Les conditions, oui.
Les critères...
Non, c'est... Bon, le problème, enfin, disons, le point faible ou la problématique du critère de continuité, c'est... Le droit de grève.
Ben voilà.
Bon, alors, comment est-ce qu'on gère cette affaire ? C'est avant de débattre, faut bien de savoir de quoi on débat. Comment est-ce qu'on gère cette affaire et qui la gère ? C'est-à-dire que il y a un service public qui est mis en œuvre par les fonctionnaires, bien. Et ce service public doit assurer la continuité. Bon, qui gère ça ? Alors là, la proposition, non, mais c'est une proposition. La proposition, c'est
alors. Le Parlement,
il faut savoir que des services publics, il y en a un certain nombre, et que lorsque il va y avoir un problème de continuité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des agents de services publics qui vont dire je ne travaille pas, donc je n'assure pas la continuité, c'est quelque chose qui peut arriver n'importe quand et qui peut arriver dans des tas d'endroits. Bon, donc, je ne suis pas en train, pour l'instant, de faire la contradiction. C'est pour bien expliquer. Et on dit, comment ça se gère ? Voilà. Alors, cet article-là donne une manière de le gérer.
Je donne mon point de vue, après...
Alors, donc, ton point de vue, c'est l'Assemblée.
Moi, je préfère...
D'accord. Alors...
Ceci dit, commencer à parler du service public et commencer à parler de la grève, ça, à mon avis, ça ne paraît pas être quand même l'essentiel. J'aimerais bien avoir une définition du service public qui soit d'un certain niveau quand même, pétard. Moi, j'ai une proposition à faire sur le service public.
Oui, mais là...
Attends, on va d'abord étudier ça.
Mais c'est là ne va pas, moi.
On finit d'étudier, on dit que ça ne va pas.
D'accord. Alors, il y a un deuxième point qui ne va pas, c'est quand on dit qu'il faut... si un service public fait des bénéfices, il faut les rendre à l'État. Ouais. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
Bon, non, mais on va y venir.
Je conteste complètement.
Pour l'instant, attends, on parle du critère de... Bon, Attendez, on va prendre les choses une par une. Est-ce que le critère de continuité
est défini ?
Alors ça, on peut dire qu'il n'est pas assez défini, le critère de continuité, peut-être.
Moi, c'est pas clair.
Non. D'accord.
Qu'est-ce qu'on n'entend pas ?
Parce que là, on dit juste qu'on parle des conditions. Un service public donné, dans quelles conditions le critère de proximité peut être compatible avec le droit de grève? Et on n'a pas expliqué ce que c'était.
D'accord.
Moi, j'ai par exemple été amené à travailler sur les services, ce qu'on appelait les services continus, et on parlait des services continus en les définissant sur tout ou partie de la journée des 24 heures. Parce qu'il y a des gens qui faisaient des services continus 24 heures sur 24, et il y a des gens qui faisaient des services continus sur 2 fois 8 heures, par exemple. Bon. Tout ça, c'est... Donc, il faut le définir. Non, mais, qu'est-ce qu'on entend par continu?
Alors, lorsqu'on dit...
C'est pas si simple que ça.
Non, mais lorsqu'on dit un service public doit répondre aux critères de continuité, c'est pas suffisant. D'accord? C'est ça? On dit que c'est pas suffisant. Non. C'est ça qu'on est en train de dire, c'est pas suffisant?
Ben disons que le terme de continuité, je le trouve moins précis que le terme d'intérêt général. Quoi.
Non, mais...
Autant le terme d'intérêt général,
non, c'est,
ça me paraît évident, non, mais... le terme de continuité, c'est moins évident.
Il y a continuité et intérêt général. Pour l'instant, on planche sur continuité.
J'ai bien compris, mais je te fais des comparaisons. Toi, tu dis...
Moi, je dis rien, moi. Si je dis non, mais non, je dirais, bon, est-ce que le premier article là où on dit que il doit y avoir le critère de continuité et le critère d'intérêt général.
Bon. Et pourquoi on enlève le critère d'égalité?
Alors le critère d'égalité n'y est pas parce que ensuite on dit que ça peut être, il peut y avoir des services gratuits ou des services payants.
Donc c'est pas égal. D'accord.
Voilà, les services gratuits, bon bah c'est gratuit, donc il y a le critère d'égalité. Services payants, c'est payant.
Donc c'est pas et les services publics payants.
Oui.
D'accord.
Non mais oui. On n'en est pas là. On n'est pas. Bon, on pose un critère. Oui, c'est. On fait du droit. C'est. Alors. On pose un critère de continuité. Pour l'instant, on va travailler là-dessus. Critère de continuité. Soit c'est suffisant de dire continuité, soit il faut qu'on précise continuité.
Alors, remarquez, effectivement, c'est écrit impliquant que le service doit être assuré régulièrement. Donc, le critère de continuité signifie que le service, ou le dire impliqué, il faut dire juste. Côté un critère de continuité qui signifie que le service doit être assuré régulièrement.
Bon, continuité, ça me parle dans le sens où ça veut dire, après, c'est l'organisation du travail qui découle après, qui est sur les horaires, juste comme ça, mais la continuité, ça
mais quand on parlait du service minimum, tout à l'heure, vous avez dit que ce n'était pas une continuité.
Oui, alors, est-ce que la formulation devant répondre aux critères de connaissance, continuité impliquant que le service doit être assuré régulièrement, est-ce que cette formulation elle est suffisamment précise et claire? Peut-être bien que non. Alors qu'est-ce qu'il faudrait mettre?
Qui signifie à la place de l'impliquant?
Comment?
Qui signifie à la place de l'impliquant? Mais après, régulièrement,
c'est clair.
Bon, est-ce que...
De façon ininterrompue. Mais bon, le service minimum, c'est aussi ininterrompu.
Dans la notion de régulièrement, il n'y a pas la notion quantitative. Hein. Ouais. C'est-à-dire que régulièrement, ça veut dire que le train, il faut qu'il y en ait tous les jours.
Pas forcément tous les trains, mais...
Voilà. Alors, est-ce que si on met, par exemple, que le service doit continuer de la même façon? Hein? C'est-à-dire que si on a 1000 trains, il faut qu'il y ait toujours 1000 trains.
Donc on interdit le droit de grève. On est anticonstitutionnel.
Attends.
Ben si.
Oui, mais c'est pas grave.
Moi je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est grave.
Mais bon. Tu fais la grève du zèle alors après, comme ça t'as toujours tes trains.
Non, mais. Ce qu'il faut, c'est. Allez, là, on fait pas un travail politique, on fait un travail juridique.
Mais c'est pas de la politique.
Il y a quand même la société qu'on veut avoir derrière. Donc,
oui, tout à fait.
Dans la police, le droit de grève est interdit.
Pardon?
Dans la police, le droit de grève est interdit.
Militaire.
Non, la police, non.
La police,
il n'y a que les militaires.
Ou le droit de grève,
les gendarmes sont militaires.
Parce que c'est des militaires, voilà.
C'est
Alors, si... Restons concentrés. Si on dit que la continuité, c'est un volume d'activité qui est maintenu identique chaque jour.
Peut-être un pourcentage par rapport à un volume normal.
Alors, attendez. Si on dit que la continuité, c'est un volume qui est reconduit chaque jour, donc là il y aurait une précision supplémentaire. Bon. Est-ce que... Est-ce que le service public peut rompre la continuité? Si on définit la continuité comme étant un volume de service identique, maintenu identique chaque jour, hein, en termes qualitatifs et quantitatifs, donc il y a une quantité et une qualité qui se maintient chaque jour, est-ce que le service public peut rompre? Voilà. Non, mais c'est ça la question.
Non.
Soit on dit oui, soit on dit non. Si on dit oui, bon, ça veut dire soit... Alors, si on dit oui, ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas de droit de grève, ou bien, et c'est ce qui est introduit ici dans l'article 51.4, il appartient alors, au président de la République ou appartient à une autorité à définir, de faire une dérogation. C'est-à-dire qu'on a un service public qui doit maintenir le critère obligatoire de continuité en qualité et en quantité. Donc même flux quantitatif, même flux qualitatif. Et puis on a un autre article derrière qui dit il y a une autorité qui peut déroger. Alors, à partir de là, soit, il y a plusieurs possibilités, on dit on enlève, on dit non, c'est pas possible, on enlève le critère de continuité.
Ah non.
Non mais, pour l'instant on n'est pas à dire non, oui, on voit toutes les hypothèses, et puis ensuite, c'est pour qu'on ait bien en tête toutes les hypothèses possibles, et voir ce que ça implique. Donc, soit on maintient le critère de continuité, soit on l'abandonne. Si on maintient le critère de continuité, soit c'est un critère de continuité intangible, soit c'est un critère de continuité qui peut être dérogé, auquel il peut être dérogé. Si le critère de continuité peut être dérogé, par qui il peut être dérogé? Par quelle autorité? Et dans quelles conditions? Et selon quel principe? Peut-être, sur aucun principe, en fonction, tout simplement, de l'autorité qui est conférée à celui qui va en définir. C'est de tout ça qu'il nous faut décider. Voilà. Bon, on va pas le faire. C'est simplement, on ouvre. C'est pour simplement travailler un peu la réflexion juridique. On va pas le faire. C'est pour vous montrer. Voilà. Le but de ça, c'est pas d'arriver. Si on se dit, on va pondre une charte de service public, on peut y passer. Pourquoi pas 6 mois.
Puis attends, c'est pas à nous de le faire.
Non, aussi. Non, mais ça c'est autre chose.
Qui se négocie avec les corps intermédiaires.
Non, mais
ça se discute.
Une proposition. Un groupe de réflexion.
Un groupe de réflexion, il n'y a pas de corps intermédiaire. C'est les citoyens qui décident.
Non.
Est-ce que les corps intermédiaires vont avoir dans la façon dont on veut vivre?
Non, mais attendez.
Autre chose.
Rien n'empêche, aucune loi n'empêche un club de réflexion de dire on va plancher sur une charte de service public, de travailler 6 mois et puis de produire un truc et puis voilà, appropriez-le-vous ou pas.
Oui.
Voilà. Bon, donc, non mais simplement ce que j'ai souhaité c'est qu'on fasse un petit peu de travail juridique pour voir comment ça fonctionne quand on essaye de produire un texte. Donc on donne pas de réponse, oui, ce que va dire, je suis d'accord,
moi,
je suis pas d'accord,
je veux quand même t'en donner une.
Oui,
je pense que traiter du droit de grève là dedans c'est pas le lieu. Qu'on parle d'un service public, moi, j'ai personnellement une autre définition du service public qui est en rapport avec le préambule de la Constitution, parce que ça me paraît fondamental.
On va y venir. Hein.
Mais le droit de grève, c'est un cas exceptionnel qui devrait d'ailleurs pas avoir lieu, que vraiment exceptionnellement. Malheureusement, il y a eu des recours à la grève parce que
il y a des dysfonctionnements
de la société. Mais
d'accord.
Je pense qu'il faut pas aborder ça dans
dans ce type de règlement, quoi.
Ouais, si tu n'abordes pas le droit de grève, ça veut dire que la Constitution s'applique. Et si dans la Constitution tu dis qu'un service public doit assurer le même service...
Non, on n'a pas dit ça. Une continuité...
Oui.
C'est pas précisé non plus. La continuité,
donc, il ne faut pas préciser la continuité.
Non, il faut dire le même service. Il faut appeler un chat un chat.
Comment ça ?
La continuité, c'est juste que ça continue. D'accord ? Que
oui.
C'est assuré.
C'est-à-dire que...
Tu peux avoir deux trains.
L'entreprise SNCF ne peut pas décider du jour au lendemain qu'elle n'assure plus le service entre telle ville et telle ville.
Très bien. Donc,
c'est ça la continuité. Elle n'a pas le droit de faire ça.
Elle n'avait pas le droit.
Ça va contre l'intérêt général qui, lui, ne s'arrête jamais.
Alors, bon, là, on a, vous voyez qu'on a plein d'avis divergents. On fait des exercices. Hein. Bon, on a plein d'avis divergents sur ce que ça doit être la continuité. Est-ce qu'il faut qu'on définisse la continuité? Est-ce qu'il faut qu'on indique la possibilité de droit de grève ou pas? Voilà. Bon, voilà les pistes de réflexion. Mais on ne décide pas. On peut faire plus tard un atelier. On décide. Mais vous voyez bien qu'on a tous... Il y a au moins 3 ou 4 avis qui sont assez différents là-dessus. Voilà. Alors, ensuite, ça va des exercices, des propositions. Hein. C'est une réglementation du droit de grève. Hein. C'est le président de la République, une proposition, qui dit je déroge, j'autorise la grève ou pas. Et il assure la responsabilité de la continuité du service.
Mais ça me fait rire, ton truc. Enfin, faut avoir vécu dans des entreprises et avoir vécu des situations de grève, quoi. Tu penses bien qu'on m'a demandé l'autorisation au président de la République pour faire grève. Attends, arrête. Quand les gens ils arrivent à faire grève, c'est qu'ils s'en sortent plus, quoi. Et là, il n'y aura pas d'autorisation. C'est comme ça.
Mais non, mais...
Mais écrire ça là-dedans, c'est une plaisanterie.
On ne parle pas d'autorisation là.
Pourquoi c'est une plaisanterie?
On dit juste que le président de la République, il a la responsabilité de s'organiser et de se démerder avec un droit de grève pour assurer la continuité du service. C'est pas la même chose.
C'est pas pareil.
Ah ben
c'est
comme
ça qui est écrit.
C'est ça qui est écrit.
Pourquoi on ne pourrait pas l'écrire
si,
ça?
C'est ça qui est écrit, Jacques.
Pourquoi on ne pourrait pas l'écrire?
Alors c'est peut-être... interprétable, parce que le problème, c'est que tout était interprétable.
C'est ça, la vie.
Donc, c'est pas assez verrouillé, peut-être.
Tout est plus ou moins interprétable. Justement, ce qui est intéressant, c'est de voir si la rédaction est assez précise pour que ce soit interprétable. Oui. Voilà. Mais on va avancer, parce que c'est vrai qu'on pourrait passer énormément de temps. Ça va pour ouvrir des réflexions. Hein. Alors, l'histoire de gratuit payant. Un service public peut être gratuit.
Le critère d'intérêt général, pas vu, là.
On y vient. On y vient, David.
C'est l'article 51.3.
Oui, il en parle, il l'annonce. Et ensuite, c'est à partir du 51.7, on y vient, tu verras. On y vient, intérêt général. Il est...
Ben, je ne connais pas le 51.3. Allons plus bas.
Oui, non mais qu'est-ce qui gêne dans 51.3 ?
Le fait de dire que implique le service de répondre à l'évolution des exigences. Ouais, enfin non, ok. Non, effectivement, c'est pas la définition, donc ça va bien, c'est pas une définition.
D'accord.
Donc ça continue.
Ok, ça continue. Alors, un service public peut être gratuit ou payant. Bon, voilà, on dit qu'un service gratuit peut être gratuit. Un service public peut être gratuit ou payant. Si le service est payant, les bénéfices réalisés lors de la vente des biens et services sont affectés en tant que recette au budget général de l'État, ce qui constitue une source d'autofinancement des pouvoirs publics. Alors,
moi, je me suis opposé à ça. Je peux t'expliquer pourquoi.
Non, mais, attends, Jacques. L'idée dans cet exercice, c'est pas de savoir si on est d'accord ou pas. L'idée dans cet exercice, c'est de voir ce que ça implique. Est-ce que c'est clair, est-ce que c'est pas clair? Est-ce que c'est pas assez précis? Et voilà. On ne doit pas savoir si on est d'accord ou pas. C'est un autre exercice.
Non, mais s'il n'y a pas à discuter,
je me fais mal comprendre. Non, mais
moi, tu me dis un truc, je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord sur ce terme-là. Parce que, voilà, j'ai vécu ça avec EDF, je suis désolé, j'ai des expériences, j'y peux rien.
D'accord.
Hein, mais on a piqué pendant des années 2 ou 3 milliards par an à EDF. Mm-hmm. sous prétexte que l'État était l'actionnaire, c'est une vaste fumisterie. Pour moi, il ne peut pas y avoir d'actionnaire dans le service public. Hein. C'est une antinomie. Or, on piquait le pognon que dégageait EDF pour le réinvestir dans l'État. Alors que normalement, c'est de l'argent qu'on aurait dû rendre, qu'on aurait dû soit utiliser pour améliorer le service ou pour baisser le coût de l'électricité. Mais voilà.
Ok.
Je suis désolé, quand on paye son électricité, on ne paye pas ses impôts. C'est deux choses différentes. Donc je ne suis pas d'accord pour réinjecter. Bon. Voilà pourquoi.
Alors,
et après, maintenant, qu'est-ce qu'on dit ? C'est qu'EDF est en perdition financière.
Non mais...
Alors qu'on a filé du pognon à l'État pendant des 20 ou 30 ans. Arrêtez.
Bon. Mais, ok, bon, on va.
Je ne peux pas laisser dire des trucs comme ça. Moi, le service public, c'est ma vie. Moi, pour moi, le service public, tu comprends. Donc, je vais me dire, ça me pose problème.
Alors, restons sur le débat idéologique. Alors, un service public payant. D'abord, il faut savoir si on accepte qu'il y ait des services publics payants ou pas. Voilà. Donc, il y a un système où une type de législation en France dans la Constitution où on n'accepte pas qu'il y ait de services publics, on n'autorise pas qu'il y ait des services publics payants. Et puis, il y a une autre vision qui autorise qu'il y ait des services publics payants. Alors, si on a des services publics payants, quid des bénéfices ou pas de ces services publics payants ?
Et puis quid de l'égalité ? Parce qu'à partir du moment où on sera en payant...
Non. Si les services publics sont payants, on n'est plus dans le cadre de l'égalité. L'égalité n'a pas été indiquée comme principe. L'égalité n'a pas été indiquée comme principe parce que l'égalité, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un service public payant. Bon, encore une fois, ça, c'est pas une Bible, c'est un exercice pour réfléchir sur la difficulté qu'il y a à établir une charte de service public. Voilà. Alors, donc, un service public payant, comment ça marche au niveau des bénéfices ?
Ben, ça marche.
Mais non.
Alors, un service public payant, essayons de rester au niveau des principes.
Mais c'est tout simple.
Un service public payant ne doit pas faire de bénéfices. C'est ça ?
Certainement.
D'accord.
Alors, attends, ça ne veut pas dire que...
Non, mais...
Il
ne
doit pas être déficitaire pour autant.
Il ne doit pas être déficitaire pour autant. Et les bénéfices, soit sont réinvestis dans le service public, soit on dit, pour l'année prochaine, on baisse le prix de l'énergie ou de ce qu'on vend, quoi, de façon à rééquilibrer.
Bon, alors, donc...
Mais dans une boîte importante, il va y avoir de l'investissement, il va y avoir de la recherche, etc. Ça va servir à ça. Mais moi, je pense que dans le principe du service public, c'est de rappeler que on doit vendre le service. Quand il est payant, il doit être au prix le moins cher possible.
Oui, mais
le meilleur service, le moins cher possible. Ça, pour moi, c'est des choses importantes qui doivent être.
Ou gratuit.
On
ne
trouve pas là-dedans, qui me gênent.
Ou gratuit.
Ou gratuit, bien sûr.
Non, mais...
Et gratuit.
Alors,
non, toujours gratuit.
Un service public payant. Donc là, il y a une idée qui est qu'un service public payant ne doit pas faire de bénéfices.
Réutiliser ses bénéfices.
Pour
certaines choses.
Alors là, c'est un petit cours de comptabilité. Si tu réutilises tes bénéfices, ça veut dire que tu fais pas de bénéfices.
Voilà, c'est ça.
Oui, si tu veux.
Voilà. Hein ? C'est-à-dire que tu fais de la recherche et développement. Tu sors un bilan de fin d'année en équilibre.
Ouais.
Bon, voilà. Donc voilà une. Donc il y a une autre formulation qui est ça, un service public ne doit pas faire de bénéfices.
C'est pas son objectif.
Non, mais
son objectif,
non,
mais c'est de rendre service au public.
Non, mais ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est la rédaction juridique. Donc, on dirait un service public payant est un service public payant ne doit pas faire de bénéfices. Ça veut dire que effectivement le gestionnaire du service public payant si se trouve en face d'un exercice qui va vers du bénéfice.
Qu'est-ce qu'il fait de la somme ?
Comment ?
Qu'est-ce qu'il fait de la somme ?
Ah non, alors, encore un petit cours de comptabilité. Lorsqu'on a pour impératif de ne pas faire de bénéfice, un chef d'entreprise, il suit. Il n'attend pas la fin de l'année pour voir ce qui se passe au niveau de ses comptes. Hein. Il suit ses comptes au fur et à mesure. Lorsqu'on voit qu'on a un bénéfice, enfin, qu'on a un excédent de gestion, une marge excédentaire qui est là, hein, cet excédent de gestion, il peut être siphonné de deux façons. Soit en faisant des investissements en interne, c'est-à-dire en achetant des machines, en faisant de la recherche, du développement, des choses comme ça, soit en baissant les prix de vente. C'est des choses qui ont été dites par Jacques. C'est la technique classique de la règle d'or de ne pas faire de bénéfices. Alors, je dirais que les entrepreneurs individuels, le travailleur indépendant connaît bien ça. S'il a décidé de ne pas faire de bénéfices parce qu'il ne veut pas payer d'impôts, bon, on sait comment il faut faire. Donc, il y a mais là, on est bien, on avance dans la définition du service public. Puisque on a une proposition, il y a une autre proposition là, hein, qui voilà. Et encore, on discute pas des incidences politiques. Excuse-moi, hein, mais c'est un autre débat extrêmement intéressant, qui est sans doute plus intéressant. Mais ça commence par avoir les idées claires au niveau juridique. Ta rédaction, mais évidemment, les rédactions, comme tu dis, David, elles sont sous-tendues par l'idéologie qu'on met derrière. On est tout à fait d'accord. Hein. Voilà. Donc, non, mais chacun peut avoir les idéologies. On peut avoir des idées différentes. Tu dis, moi je suis pas d'accord parce que. Bon, t'as une
certaine. Ça a été rédigé avec une idéologie capitaliste.
Peu importe.
C'est clair ça. C'est clair.
Non, alors. Alors attends.
Bah, c'était évident. Hein?
Non. Alors, je vais. Oui, après. Non.
Bah, je te dis que c'est moi.
Bah, je vais te dire, je vais te démontrer que non.
La preuve, parce que. Non, mais. Moi j'aurais pas parlé de bénéfices, quoi.
C'est pas une preuve ça. Tu dis, la preuve c'est que moi j'aurais pas. Pour moi que c'est capitaliste. Ça c'est une preuve.
De quoi ?
Tu me dis, ça c'est une rédaction capitaliste. La preuve c'est que moi j'aurais pas écrit ça. C'est pas une preuve. La preuve c'est qu'il faut que tu me démontres que ce qui est écrit c'est capitaliste.
Parce que dans l'esprit du service public que j'ai pu connaître, il n'était pas question, on n'était pas là pour faire des bénéfices.
Jacques, c'est pas.
On était là pour rendre service au public.
Non, tu dis.
Vous voyez pas ce que ça veut dire.
Alors, je vais t'expliquer que c'est pas capitaliste. Lorsque on dit. On parle des services publics payants, hein. Bon. Jacques nous dit je définirais le service public payant en disant le service public payant a l'obligation, ce qu'on appelle la règle d'or, de ne pas faire de bénéfices. Bon. Là, il y a une autre proposition qui est une autre rédaction. Alors, cette rédaction se tient. Juridiquement, ça se tient. Bon. L'autre rédaction qui est inscrite là, elle se tient aussi juridiquement, elle n'a pas la même idéologie.
Oui.
Mais ce n'est pas une idéologie capitaliste, et je vais te le démontrer.
Ah, bah c'est...
Non, mais je suis voilà. D'accord, parce qu'en fait, le but, c'est quand même de le remettre dans un coup
alors,
de main.
Non, mais alors, un service public. Le service public est payant, les bénéfices réalisés lors de la vente des biens et des services, donc les bénéfices d'exonération, sont affectés en tant que recette au budget général de l'État, ce qui constitue une source d'autofinancement des pouvoirs publics. Alors, là on est dans le système bolchevique. C'est-à-dire...
Mais c'est pareil, oui.
Ah ben c'est pareil. Ah bon, capitaliste et bolchevique, c'est pareil.
La preuve, ça les a conduits au désastre.
Non, non, attends.
Ouais, mais moi, je ne mettrais pas pouvoir public. Je mettrais service public.
Attendez, tu vois, c'est...
Non, mais... Eh oui.
Mais non, mais... Attends, laisse pas...
D'accord.
Tu ne mettrais pas quoi ?
Je ne mettrais pas pouvoir public, je mettrais service public. Autofinancement des services publics. Ce qui fait que c'est réinjecté dans un pot commun, tu comprends ?
Mais,
vraiment.
Non, mais.
Mais là, pouvoir public.
Alors, c'est.
C'est ça que j'aime.
Alors, mais non. C'est...
Si, si, si.
Oui, oui, non.
Je t'ai pas.
Alors, le budget général de l'État.
Je ne sais pas trouver ça
difficile. Non, mais.
Ils sont chiants,
mais...
c'est pas.
Le budget général de l'État, ça s'appelle le budget des pouvoirs publics. C'est les 280 milliards de l'État qui sont constitués par. La TVA,
oui.
L'impôt sur le revenu,
oui.
le, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur les produits pétroliers, qui serait abondée en plus par les bénéfices du secteur public. Le secteur public payant, c'est un certain nombre d'entreprises, ça peut être, je ne sais pas, dans les entreprises, l'EDF, le machin, je ne sais pas quoi, l'énergie, n'aurait pas la règle d'or de ne pas faire. Pour l'instant, j'explique un mécanisme.
Oui, mais justement, je ne peux pas te poser. Je crois qu'il y a besoin de précision là-dessus.
Oui, oui, oui. Alors, donc, ces services publics payants font des excédents de gestion. Ouais. Ces excédents de gestion constituent une recette fiscale.
D'accord.
Ils constituent une ressource fiscale et viennent abonder. Bon, je mets pouvoir public parce que ça s'appelle comme ça. C'est le budget général des pouvoirs publics.
Ouais. Moi, c'est pas mettre le budget général de l'État.
Bon, alors on peut mettre. On peut mettre. Alors ça, vraiment, on peut mettre de
l'État. Tu sais, Christian, comment on peut jouer sur les mots. Et c'est pas précis. Enfin, ça a une.
Alors, en tant que.
Une connotation un peu. Tu vois, pouvoir public, c'est pas la bonne. C'est pas le bon
mot. En tant que recette. Au budget général moi, je trouve, de l'État. Hein,
vous débrouillez.
Non, non, mais,
c'est peut-être ça qui fait bondir. C'est ça l'histoire.
Quel est le problème avec le mot pouvoir public?
Je sais pas, ça passe pas, je crois.
Non, mais là, on est sur un truc juridique. Hein. Quel problème que, là, bon, ça vient abonder les recettes au budget général de l'État. Ce qui constitue une source d'autofinancement de l'État.
Non, mais moi, c'est pas ça. Hein. Si tu me dis que ça revient dans le pot général de l'État, oui. Moi, je te dis, je suis pas d'accord.
Mais oui, pourquoi ?
Parce qu'on ne sait pas où ça va être
utilisé. Parce que chaque service public, non, il n'est pas fait pour faire des bénéfices.
Après, rien ne s'empêche de bien remettre les choses.
Bon, alors.
Donc, ça veut dire qu'en fait, le service
l'idée,
public.
L'idée, c'est pas de pouvoir continuer à une répartition comme c'est fait aujourd'hui.
Mais le service public, il doit être quand même, même s'il est payant. À un prix modéré, on est d'accord quand même. Même s'il est payant, il doit être un prix quand même relativement faible.
Mais imagine que ça, il y a une aide. Attends,
rien n'empêchera que le prix augmente.
Non, non, mais.
Du coup, pour avoir.
La question, elle n'est même pas.
Abonder dans. Ah, ben si, dans le pot commun.
Oui, mais dans le pot commun, tu crois qu'il n'y a pas des aides? Et si ça.
Comme c'est pour l'armée, tous ces trucs comme ça.
Non, mais il y a aussi des aides sociales, il ne faut pas déconner.
Non, mais on ne sait pas ce qui va devenir.
Tu ne sais pas que ça ira à l'armée, non?
Le pot commun, ça sera pour faire la bombe, quoi.
Tu ne sais pas.
Alors. Oui, enfin, pour l'instant.
Tu sais
mais
pas,
on
ne
peut pas, voilà.
Oui.
Bon, alors, c'est pour ça qu'il vaut mieux définir un service public en disant qu'il ne va pas faire de bénéfices. Après,
oui, il va mettre son argent.
Mais pourquoi tu veux qu'il mette son argent? Il est là pour te rendre service, pour te vendre le produit.
L'EDF, ça ne devrait pas être payant, voilà, point bas.
Alors,
un service public devrait être gratuit.
Alors, mais tu paieras des impôts pour faire fonctionner les EDF dans ce cas-là, mais c'est tout. Mais.
Bah oui.
Actuellement, tu n'en payes pas.
Oui.
Actuellement, tu ne payes pas d'impôts pour faire fonctionner les EDF.
Non,
tu payes l'électricité, c'est tout.
Si, tu as la TVA et les taxes.
Ah, mais donc, la TVA ne rentre pas à EDF. La TVA ne rentre pas à EDF. La TVA rentre dans l'État. C'est pas normal, ça.
Oui, mais
je suis d'accord avec toi aussi.
Mais tu payes la TVA et une taxe. Des
bien
taxes,
sûr.
Des tas de taxes.
C'était pas le cas il y a 30 ans, non. On payait pas de TVA.
Alors, je rappelle qu'on essaye de voir les incidences. On va pas s'affronter sur des trucs d'idéologie.
Ah non, attends. La dernière fois, tu nous as dit, on va définir un service public. Moi, je te viens avec une définition d'un service public.
On va faire un exercice.
Mais je crois. Bon, toi, tu viens avec une autre. Ben, c'est bien.
Après, on dit, pour faire pas de bêtises, mais il y a des services publics qui font des déficits aussi. Donc, qui paye les déficits?
Bien sûr. Alors, tu as des déficits. Chaque chose. Là, on finit celle-là.
Alors.
C'est bien construite, mais pas sur l'idéologie. Après, on passera à ton idée de.
Alors, attends. L'idée selon laquelle il y a des services publics payants. Qui font des recettes fiscales et qui amènent du financement à l'État, c'est une idée qui n'est pas nouvelle et qui est l'idée de base des sociétés communistes. C'est pour ça. Non, de base, c'est même pas l'idée, c'est la base du principe communiste. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu me dis ce truc-là, c'est capitaliste, Bon, ben, c'est pas capitaliste, c'est communiste.
Non.
Alors, enfin, non.
Alors là, pas du tout d'accord.
Alors comment a été financé? Comment a été financé?
C'est pas moi qui...
Non, c'est pas idéologie. C'est le mécanisme de financement de l'État. Le mécanisme de financement de l'État mis en place par... le principe communiste du financement de l'État, c'est le financement de l'État par les services publics, par les entreprises publiques. L'État est financé comme ça. Donc les entreprises publiques qui font des services...
L'État est financé, il faut payer des impôts aussi.
Non, très très peu. Les impôts ont commencé à arriver avec Staline, il y avait très très peu d'impôts. Le principe communiste, c'est un principe où le citoyen ne paye pas d'impôts. Il y a des entreprises, il y a des services publics payants et des services publics gratuits. Les services publics payants génèrent du bénéfice, des excédents de gestion, d'accord, qui abondent les pouvoirs publics, enfin le budget de l'État, qui finance les services publics gratuits. C'est le principe marxiste-communiste, c'est ça, le principe de fiscalité. Donc c'est le contraire du capitalisme.
Oui.
Bref, c'est deux façons de voir le service public gratuit, payant, dans la mesure où on est d'accord pour qu'il y ait des services publics payants.
Oui.
Hein. Soit les services publics payants, c'est une philosophie, une idéologie, et ça implique effectivement un mode de gestion différent. Les services publics payants ont la règle d'or de ne pas faire de bénéfices. C'est-à-dire que dès que le gestionnaire du service public payant voit qu'il va faire des bénéfices, il fait des investissements en interne ou il baisse le prix des produits. Voilà, ça c'est un système. Il y a un autre système qui est que le service public payant fait des excédents de gestion. Ces excédents de gestion sont une source de financement de l'État. Et alors après, on a la problématique de c'est pas fléché, ça rentre dans Pokémon, c'est pas à quoi ça sert, sauf si il y a encore une précision législative qui fait que les bénéfices. Alors, si par exemple on veut faire une politique écologique. On peut avoir un service public de l'énergie qui va vendre l'essence parce qu'on vend très cher, qui va faire des bénéfices, et avec ces bénéfices, ça va aller par exemple, alors pas dans le budget commun de l'État, mais ça va être fléché sur, l'aide sociale ou handicapé, simplement pour illustrer. Bon. Et donc, on aura les gros consommateurs, ceux qui font une très forte prédation sur l'empreinte écologique de la Terre, qui bouffent des hydrocarbures, qui généreront du bénéfice par un service public qui enverra ses bénéfices comme financement aux handicapés.
Oui, mais
je prends exprès des
ça marche jamais, ça. On voit la vignette pour la voiture. La journée de solidarité.
Véronique, voilà. Ça c'est jamais... autre chose. Le fait que c'est, non, ça marche pas parce que c'est mal fichu. Bon, mais ça c'est un autre problème.
Ça marchera jamais. Quoi.
C'est un autre problème. Bon, on va avancer. Donc il y a deux façons. Le service public gratuit, service public payant.
C'est politique.
Si on l'accepte, il faut voir. Comment est-ce que le gestionnaire du service public va être autorisé ou pas à faire des bénéfices? Bon, alors, ensuite. Maintenant, on parle de service public gratuit. Alors, on dit dont la gestion relève du pouvoir exécutif, hein, c'est l'exécutif qui gère le service public gratuit. Monopolistique, parce qu'il y a aussi les affaires de secteur public. Monopolistique ou pas, tout ça c'est aussi en vrac, hein. c'est pas défini. Mais là on essaye de le définir. On dit que, et là on l'inscrit dans la Constitution, c'est-à-dire un peu comme des fonctions régaliennes qui sont pas non plus inscrites dans la Constitution, mais qui seraient sans doute intéressantes d'inscrire. On dit, il y a des services publics gratuits, monopolistiques, qui sont la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, la diplomatie, la justice et la perception fiscale. Ben, ça, c'est inscrit dans la Constitution.
Est gratuite.
Comment ?
La justice est gratuite.
Elle est gratuite,
Là, on dit qu'elle est gratuite.
Là, on dit qu'elle
est gratuite. On définit les choses. On est là pour définir les choses.
Gratuite, la justice. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, quand.
Voilà. Bon. Alors, est-ce qu'il y a une autre façon. Alors, encore une fois, ça, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'il y a une autre façon de le dire ou une autre façon de voir les choses ?
Pour les victimes.
Est-ce qu'il y a une autre façon de voir les choses ? C'est-à-dire, est-ce que l'idée de définir un secteur public gratuit monopolistique et de le nommer.
Les victimes, c'est gratuit.
Oui, c'est bien. La sécurité extérieure,
c'est l'armée.
C'est l'armée.
Dans l'aide juridictionnelle, quand même, pour les trépas.
C'est force nationale.
D'accord.
Je ne sais pas. Mais oui.
Bon, enfin, après, on peut, c'est simplement, on peut y réfléchir, hein, ça vaut. Alors,
comment on peut savoir que c'est gratuit c'est ça que je comprends depuis tout à l'heure.
Oui.
Si on met un service public gratuit, ça va forcément augmenter les impôts. Et ces impôts, on ne sait pas plus où ils vont. Oui. Elle est où la différence entre savoir où irait l'argent d'une entreprise publique qui irait à l'État et où vont les impôts qui vont à l'État à la place.
Excellent. Tu peux reformuler encore. Vas-y. Reformule. Non, mais.
Je non, pas
c'est excellent.
Non, mais c'est que si on fait des services gratuits, ça va forcément augmenter les impôts. Parce que l'État a moins d'argent. Et j'aimerais juste savoir si les impôts augmentent, est-ce qu'on en sait plus sur où va l'argent.
Bon, alors.
Parce que les impôts, vu que c'est ça le problème.
Premier élément de réponse, mais tout le monde va s'exprimer là. Les services publics gratuits, ils existent déjà.
Ouais.
Hein? Bon, la police, c'est gratuit.
Oui.
La justice, c'est gratuit. Bon, enfin, on va pas pinailler. Hein? Bon. L'armée.
C'est gratuit.
Attends, je réponds. L'armée, c'est gratuit. Bon. Et ça, c'est financé. Ça, c'est financé par les impôts. C'est-à-dire qu'on a, tu peux taper sur Internet budget d'État général, budget général de l'État, tu as sur les 280 milliards la répartition. Hein, c'est 60 milliards pour la sécurité extérieure, l'armée, c'est 7 ou 8 milliards pour la justice, 15 milliards pour la sécurité intérieure, la police. La perception fiscale 10 milliards, enfin bref. Bon, tout ça, c'est des chiffres extrêmement connus qui sont prélevés sur le budget de l'État central, c'est-à-dire, répétons-le encore une fois, IRPP, IS, IS c'est l'impôt sur société, TVA, pour dire en acronyme, et TIPCE. IRPP, IS, TVA, TICPE. Bon, ça fait 280 milliards et ça abonde ces services publics gratuits. Si on en crée d'autres, oui, il va trouver l'argent. Bon, pour l'instant, on a écrit quelque chose, pour l'instant, qui est tacite, mais qui n'était pas. Ça apporte pas grand-chose, cet article, si ce n'est que ça met dans la Constitution quelque chose qui est tacite. C'est-à-dire que.
Ça nomme les services publics.
Voilà, ça nomme les services publics monopolistiques. Hein, monopolistique, sécurité intérieure, sécurité extérieure, diplomatie, justice, perception fiscale. Bon, et puis aucune contribution financière ne peut être demandée aux citoyens pour bénéficier de ces services. Ça change quand même un petit peu quelque chose. Ça veut dire que pour bénéficier de la justice, on ne peut. Elle doit être entièrement gratuite, la justice. Ce qui n'est pas le cas. Ça permet de monolithiser vraiment le caractère gratuit de certains services qui aujourd'hui sont affirmés gratuits, mais en fait c'est pas si gratuit que ça.
Attends, elle est gratuite pour les victimes ou pour les agresseurs?
Non, on parle des victimes, là, les agresseurs qui payent.
Mais c'est pas spécifié. Un agresseur, il vient de dire attends, moi la justice.
Je ne crois pas que même un agresseur a le droit à un avocat aussi.
Ils en ont un des comités.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs,
on va pas débattre sur la justice.
Voilà.
La victime paye et l'agresseur.
C'est pas comme.
Hein,
il y a du boulot.
On a du boulot. Alors, alors ensuite.
L'administration publique, c'est par exemple ceux qui fournissent des livres, un titre de séjour, le permis, la carte grise.
C'est
ministre
à l'intérieur.
Ah, mais c'est pas la sécurité intérieure.
Ouais, bah ça c'est pas. Et bah ça c'est pas gratuit non plus, hein, je vous le dis.
Mais c'est pas de la sécurité.
Non, c'est pas
gratuit.
Ça fait partie du ministère de l'Intérieur.
Ça, c'est pas gratuit.
Mais on a pas parlé du ministère de l'Intérieur, on a parlé de la sécurité intérieure.
C'est pas le même budget, quoi.
Non, mais attends, tu veux dire quoi, David? Tu veux dire quoi?
L'administration générale.
Pour avoir un passeport, qu'on paye pas pour avoir, je sais pas, une carte d'identité.
La visa.
C'est gratuit maintenant, la carte d'identité.
Oui.
Elle est gratuite.
Il faut aller voir Paul Ariès, et il va t'étendre la gratuité. Oui, ah ben, alors, c'est tout. En fait, toute la réflexion sur la gratuité, en fait, c'est la réflexion sur le service public. Le dada actuel de notre ami Paul, bon, c'est une extension de la réflexion sur le service public. Quand on dit gratuité, c'est service public. Alors, tu dis, bah oui, mais tout ce qui est payant, ça devrait être gratuit. Bon, extension du service public. Alors, on y vient. Alors, ensuite, sont déclarés services publics gratuits dont la fonction relève du pouvoir exécutif sans monopole. Donc, services publics gratuits, on a deux sections. On a les services publics gratuits monopolistiques, c'est-à-dire personne d'autre peut créer des services similaires, identiques, concurrents. Services publics non monopolistiques, donc qui répondent aux mêmes critères de gratuité que les autres, hein, mais qui ne sont pas monopolistiques. C'est enseignement et santé. Alors, là encore, on peut dire qu'il faudrait, en faudrait d'autres, etc. Mais l'idée, c'est de dire qu'il y a deux sous-catégories aux services publics gratuits. Il y a ceux qui sont monopolistiques, Et pas d'autres.
Mmh. Oui, mais alors ça sous-entend que il peut y avoir deux vitesses, quoi.
Tu vois, enfin, alors, moi je suis pas d'accord non plus là.
C'est comme l'enseignement. Alors, enfin, l'enseignement et les écoles privées, donc ça veut dire que l'élite peut encore se payer l'école privée, par exemple. Voilà. Tu vois.
Je me fais encore engueuler, on va pas débattre de ça. Hein, on va débattre du tout, on va pas débattre de ça, on débat du principe. C'est-à-dire, est-ce que le principe d'avoir des secteurs publics non monopolistiques, c'est un principe qui est recevable
pour
ou pas?
Moi, non.
Voilà.
Et après, je comprends que.
Non, mais.
D'autres, oui.
Non, mais. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a ce débat-là aussi.
Bien sûr.
Hein, c'est-à-dire que l'idée qu'il peut y avoir des services publics gratuit, non monopolistique. Là aussi, il y a deux visions un petit peu différentes de la société. Est-ce qu'il y a une troisième sous-catégorie de services publics?
Est-ce qu'on veut vraiment des services publics non monopolistiques?
Non, mais d'accord, David, on dit qu'on, pour l'instant, c'est les possibilités qu'il y a.
Oui. Moi, je dirais l'emploi, enfin, tu vois, aujourd'hui. Pôle emploi par exemple, ou enfin l'aide à la recherche d'emploi par exemple, ça c'est...
Il y a une partie qui est privée même.
Oui, mais ça ne devrait pas être.
Ah oui, non,
mais
ouais. Oui, non, tu voudrais en rajouter un autre.
Oui.
Non, mais d'accord. Non, mais. On n'en parle pas de ça.
Non, mais la question est. Est-ce que c'est vrai qu'il existe actuellement des services qui se disent services publics et qui ne sont pas monopolistiques. Mais. Bon, si on réécrit la Constitution, est-ce qu'on maintient ça ou pas, quoi? Personnellement, moi, je ne serais pas d'accord pour le maintenir.
Voilà. Après, chacun... Oui. Non, mais. Alors.
C'est
voilà. Mais il y a ces deux. Est-ce qu'il y a une troisième catégorie?
Bah, qu'est-ce que vous mettez?
Ben, je pose la question.
À part en pauvre,
la vie comme ça, monopolistique ou non monopolistique, c'est deux entités qui se complètent. Donc, il n'y a rien de.
Est-ce que il peut y avoir l'idée d'un sas. C'est-à-dire que, est-ce que des services non monopolistiques...
Tu donnes la définition d'un sas.
La définition, c'est la suivante. C'est-à-dire que un service non monopolistique, enfin, un service qui n'est pas service public, ouais, mais qui fait le même boulot que le service public.
Oui.
D'accord ?
Oui.
Là, donc, ce serait possible. On prend par exemple la santé. La santé, ce serait non monopolistique, c'est-à-dire qu'il y a un service public de la santé, mais il peut y avoir un autre privé.
Il fait de la sous-traitance alors.
Non.
Il y a les médecins qui sont privés, quoi.
Comme maintenant.
Ben, comme aujourd'hui.
Dire, oui, comme maintenant.
C'est ça que tu veux dire.
Moi, je suis contre ça, mais chacun a le droit d'être.
C'est-à-dire une clinique et ou alors un dispensaire.
Exactement.
Ou prenons
il y a les deux, privé, public.
Oui.
Est-ce que dans la Constitution, on ne pourrait pas écrire et de limiter les services privés en fixant des prix sur le service public? Parce que c'est à cause du service privé que la qualité du service public baisse, non?
Non, mais c'est pas le débat.
Ben non,
mais c'est pas le débat. Voilà. Hein, le débat, c'est... Alors, en fait, la santé, c'est un mauvais exemple pour réfléchir là-dessus. Parce qu'il n'y a pas de secteur privé. C'est un faux secteur privé. C'est un secteur privé,
oui, il a raison,
qui... tu vas chez le médecin privé, mais en fait, tu es remboursé.
Ils sont payés par la sécurité.
Bon. Le cas de figure, ce serait, par exemple, comme en Angleterre, où il y a un service public, et côté un service privé. Bon, c'est-à-dire que le service privé, si tu vas au service privé, tu payes plein pot et tu n'es pas remboursé par personne.
Voilà. Mais dans l'école, c'est pareil alors, parce que l'école.
Alors, c'est pas pareil.
Alors,
parce que
les écoles privées, elles touchent des subventions.
Voilà.
Voilà.
C'est la même chose.
C'est un mauvais.
Non, bien avant.
Alors,
si, bien avant. Mes enfants ont fréquenté le privé.
Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre d'exemple. Parce que les deux exemples en France, que ce sont la santé et là, c'est un mauvais exemple. Mauvais exemple, parce que le service public, le service de l'enseignement privé, il n'est pas privé. Voilà. Il est moitié privé, moitié public.
Bon,
il y en a des très privés, Christian.
Qui ne sont pas reconnus par l'État.
Oui, il y en a des très privés. Ils ont.
Oui,
il
n'y a pas de subvention, théoriquement.
Non, mais ceux qui sont sous contrat d'État, et il y en a beaucoup,
ils ont des subventions.
Ils n'ont pas tout à fait le même montant que le service public, mais ils touchent de l'argent public. Voilà.
Mais c'est
et
pas.
Après, ils font payer les familles.
C'est pas uniquement une question de subvention, c'est aussi une liberté d'enseignement.
Ah, ils ont une liberté d'enseignement.
Ah oui, totale, parce que le service.
Ils sont obligés de suivre le programme.
L'éducation privée, l'école privée, elle n'a pas la liberté des programmes.
Hein. Non,
elle doit suivre le programme. Voilà. C'est ce que j'ai dit.
Bon, alors. Donc,
mais les très privées, elles ont le droit de suivre.
Bon, revenons
genre
à notre.
Steiner, tu vois, c'est une école totalement
privée. Voilà. Alors, revenons à notre idée théorique. On a des services publics gratuits, non monopolistiques, des services publics. Des services publics payants, non monopolistiques.
Non,
des services publics gratuits, non monopolistiques, à côté de services publics
payants. D'accord.
Oui. Bon. À partir du moment, le SAS, non, je reviens à la question de Dominique, c'est que le SAS, c'est qu'à partir du moment où un service public. Un service
public payant.
Privé payant devient franchir certains seuils, il est automatiquement nationalisé. Voilà le SAS. Voilà le principe de SAS.
C'est le principe, c'est aussi écrit dans le préambule de la Constitution. Ça. C'est l'article, je ne sais plus combien.
Oui, à partir du moment où un service est gagné, ce qu'on a vu là.
C'est l'article dont on vient.
Oui. Ouais.
Mais ça va bien, ça.
Oui, mais qui n'est pas clair.
Mais ça va bien.
Bon, alors.
J'ai vu ça. En disant, parce que si on a des services monopolistiques à côté de services. Pardon. Services publics non monopolistiques, à côté de services payants. Voilà, privés. Derrière, ça veut dire qu'il y a quand même l'État qui est déjà dedans. Donc, d'abord, un service privé, ça veut dire quoi cette histoire de pourcentage? Parce que Ça veut dire qu'il serait plus gros que le service public, ça existe, ça ?
Non, mais on fait du droit, donc on fait de l'abstraction.
D'accord.
Une règle de droit, c'est une règle qui est abstraite,
oui, oui,
c'est-à-dire
oui.
qui prévoit quelque chose au cas où. C'est-à-dire qu'on sait que quand on fait quelque chose, il y a une règle qui nous donne le droit de le faire ou de pas le droit de faire, ou qui va se passer ça. On a une prévisibilité sur l'action qu'on entreprend.
Oui.
Bon. C'est... Voilà, donc ça c'est à réfléchir.
Okay.
Alors ensuite... toute activité sociale, industrielle ou commerciale peut être déclarée service public gratuit, payant, monopolistique ou non, à la suite d'un référendum d'initiative exclusivement citoyenne ayant reçu les signatures demandeuses de 2% des électeurs inscrits et ayant obtenu un vote positif de plus de la moitié des électeurs inscrits.
Ah ben alors on est dans le SAS.
Alors là oui, on est plus que dans le SAS parce que oui, oui, mais on est aussi dans la création.
Oui, mais qui dit ça, c'est ton système, là, dit forcément création.
Alors, l'idée du SAS, c'était de dire il y a des critères objectifs.
D'accord.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépasse tel montant de chiffre d'affaires ou telle quantité d'employés.
Oui, oui.
Un peu comme les seuils sociaux. Là, c'est toute activité. C'est-à-dire, si un référendum dit l'énergie, ça devient un secteur public gratuit, par exemple, là, on peut le faire.
Non, mais c'est bon, ça aura jamais la moitié des électeurs.
Alors voilà,
alors,
elle est compliquée la phrase de fin.
Alors, c'est compliqué, c'est-à-dire que il y a plusieurs idées en même temps. Il y a une idée qui est que une décision citoyenne peut déterminer qu'un secteur de l'activité va devenir public, public payant ou public gratuit. Bon. Ensuite, il y a les modalités de cette décision. Donc, il y a deux choses. Il y a une définition juridique de la création du service public et puis une définition juridique du référendum d'initiative citoyenne qui permet de le faire. C'est deux choses différentes qui sont pas liées, hein. C'est-à-dire qu'on peut imaginer d'autres taux, d'autres quotas.
Oui.
Voilà. Bon. Mais sur le principe, premier principe, est-ce que l'idée est intéressante que une initiative citoyenne dise
oui.
Nous créons ce service public et nous le créons comme service public gratuit ou comme service public payant. Sans préjuger de savoir si le service public payant, ça va être un service public avec des règles d'or ou un service public avec les bénéfices qui vont abonder le budget général. Donc voilà la première piste. Et l'autre piste, bon, ça c'est indiqué par. C'est toute la réflexion sur le RIC. Alors là, on va simplement effleurer parce que lorsqu'on étudiera l'article 3 et l'article 11 de la Constitution, on va avoir à étudier toutes les facettes du RIC. Parce que le RIC, ça n'existe pas. C'est les RIC en fonction des quotas qui sont mis. C'est plus tout la même chose. Alors, simplement, parce que ça introduit la réflexion future, il y a deux paramètres de quotas qui sont importants. C'est le paramètre du nombre de signatures nécessaires pour déclencher le référendum. Et puis ensuite,
le résultat
la règle de majorité, la règle majoritaire.
Oui.
Bon, tout en sachant qu'il y a l'histoire des votes blancs, tout ça. Bon, alors, donc, la première chose aujourd'hui, alors, pour fixer les esprits, le RIP, le RIP, qui est défini par l'article 11.
Oui.
De la Constitution actuelle, c'est-à-dire le référendum d'initiative partagée qui peut être déclenché par un certain nombre de citoyens et par les deux tiers de, les 3/5 du Parlement, ouais, c'est-à-dire nombre de députés plus le sénateur, c'est 10% de citoyens. Voilà.
Inatteignable.
Bon, 10% de citoyens. Les différentes propositions de RIC, de par l'échiquier, etc., ça va de 1%, 2%. Alors, la France Insoumise vient de sortir un truc que je trouve pas mal sur le RIC. Ils sont à quoi, 3%. Voilà. Bon. Ensuite, il y a l'idée. Parce qu'un référendum d'initiative citoyenne, enfin un référendum, disons, c'est pas une votation comme les autres. Un référendum, c'est censé incarner une légitimité suprême. Bon. C'est la raison pour laquelle on peut se poser les questions de savoir si un référendum qui recueillerait par exemple 15% de oui, mais qui passerait parce qu'il n'y aurait que 30% de votants. Ah oui. Si tu fais un référendum, il y a 50 millions d'électeurs.
C'est une élection à la Macron qu'on fait là.
Non, mais la question se pose. Dans les réflexions, j'anticipe, dans les réflexions sur le RIC, dans les réflexions sur le RIC actuellement, toute tendance politique confondue, gilets jaunes, etc., tout ajouté, il y a cette divergence sur combien il faut pour
mais en fait ça peut être variable, ça dépend du sujet.
Mais non, mais ça peut être variable selon l'idée qu'on s'en fait.
Selon le sujet.
Alors on va pas simplement ce que je voulais pointer, c'est que c'est une réflexion qu'il faut avoir. C'est pas du tout la même chose si on dit le résultat du RIC qui dépend du système qui est actuellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez 50 millions de votants. Si on a 20 millions qui se déplacent, et ben avec 11 millions ou avec 10 millions et une voix, ça passe. D'accord ? Bon, alors est-ce que c'est acceptable pour une décision souveraine ou pas ? Je pose la question.
Attends, si tu poses la question, on peut te répondre.
Oui, non, mais
bon,
je pose la question. Et à partir de là, parce qu'aujourd'hui, effectivement, toutes les décisions, toutes les votations du système oligocratique, c'est ça. Aujourd'hui, avec 10-15%, ça passe. Bon. Et alors, on s'aperçoit, Bénédicte, dans les propositions de RIC, que la plupart des propositions de RIC vont exactement dans le même sens que la démocratie représentative.
C'est-à-dire
que toutes les propositions de RIC vont dans le même sens que la démocratie représentative actuelle, oligocratique, c'est-à-dire, même avec 10-11%, ça passe. Bon. Et il y a d'autres tendances, dont je fais partie, qui dit non, un RIC, c'est une décision souveraine, elle doit être inattaquable au niveau de sa légitimité. Parce que le problème aujourd'hui, lorsqu'on dit « Ah, mais Macron n'est pas légitime parce qu'il a eu que 17%, que les lois qui sont votées sont votées par trois gars qui sont à l'Assemblée nationale qui ne dormaient pas cette nuit-là, etc. C'est pas légitime parce qu'il n'y a presque pas de gens qui ont voté. » Si on fait un référendum d'initiative citoyenne et qu'il passe aussi avec 10-15%, on pourra aussi dire, mais attendez, votre référendum, il y a 15% de gens qui ont voté. C'est pour ça qu'il y a des mouvements, référendum, qui disent, attention, un référendum d'initiative citoyenne, il doit avoir une légitimité incontestable et donc il doit avoir un taux très important. Alors, quand on dit majorité des citoyens inscrits, ça veut dire qu'il faut avoir 25 millions.
Ouais.
Voilà. 25 millions de oui. Peu importe les votes blancs, les abstentions, il faut 25 millions de oui. 25 millions de oui, ça veut dire que la majorité des citoyens sont d'accord. Et une des tendances du RIC, je dis une tendance, qui dit que en dehors de ça, ça n'a plus de légitimité. Que une des bases du RIC, après on peut voir plein de, mais il faut que, à partir du moment où on dit la souveraineté appartient au peuple, le peuple exerce sa souveraineté par un référendum d'initiative citoyenne dont il a seul, donc on enlève même l'initiative du référendum, on l'enlève à la représentation, on l'enlève à l'oligocratie. Il faut que ça soit une nouvelle légitimité et une légitimité inattaquable. Sinon, on va avoir des référendums qui passent avec 15% de oui. Et alors n'importe qui pourra dire c'est pas légitime. C'est pas parce que c'est d'origine citoyenne que si c'est à 15%, c'est mieux que 15% d'origine oligocratique. C'est arithmétique. David.
Pourquoi on prend le pourcentage des inscrits? Parce qu'il y a des inscrits qui ne participent jamais à rien. Ou il y en a qui ne sont même pas inscrits. Mais il y a des inscrits qui peuvent l'être, parce qu'ils ne sont pas inscrits, ils ne jamais.
C'est une excellente question.
Et donc, il y a des solutions à ça en faisant.
Vote obligatoire.
Le vote obligatoire, ou par exemple, ceux qui ne votent pas pour un député, leur député, on leur retire leur droit de vote. Comme ça, on s'assure que ceux qui participent sont vraiment ceux qui. Voilà. Et donc, on arrive avec des taux de participation à moins de
Mais bon, est-ce qu'on fait des blancs?
Il y a plein de réflexions là-dessus.
Il a voté. Un blanc, il a voté.
Oui, mais malgré tout, il n'est pas compté aujourd'hui. Et il n'invalide pas.
C'est 50% des inscrits, c'est une base fondamentale.
Alors, il y a effectivement, David, il y a plein de variantes possibles. Ce qui est dit là, là, il n'est pas noté inscrit. C'est noté.
La moitié des électeurs inscrits.
Non. Ah oui, c'est marqué inscrit, oui. Oui. C'est marqué inscrit. Alors, au revoir. C'est marqué inscrit. On peut dire la moitié des citoyens.
Mais c'est encore pire.
Ah ben non, parce qu'il y en a des citoyens qui ne votent pas.
Oui, mais la moitié des citoyens. Oui. C'est une. Je ne vends pas le truc. Je ne vends rien. J'ai rien à voir. Bon, il y a une chose claire. Il y a une idée. Une idée qui est. La légitimité d'une loi, c'est lorsque plus de la moitié des citoyens sont d'accord. Voilà.
Non, mais il y a une partie des citoyens à qui on ne demande pas l'avis.
Il y a des citoyens qui n'ont rien à cirer de nous.
Quand ?
Il y a des citoyens qui n'ont rien à cirer de rien.
Oui.
Ils n'ont pas.
Il y en a une majorité.
Non, mais d'accord. Oui.
Donc, il faut pas compter sur eux pour faire avancer le public ou pour essayer de penser à l'intérêt général parce qu'ils s'en foutent complètement. Donc, il faut les retirer de la possibilité de, d'influer sur le vote.
Alors,
ils n'influent rien. Hein, ils ne peuvent pas influer puisqu'ils s'en foutent.
Tu peux pas
prendre. Donc, il faut les retirer.
Ouais, tu vas pas leur enlever le droit de vote. Enfin, c'est compliqué.
Non, mais alors. Mais tu leur enlèves. Parce que si tu dis, par exemple, si vous participez pas. Mais justement, non, mais tu peux te répondre. Si vous participez pas à telle élection, qui est l'élection des députés, machin, alors on vous retire votre droit de vote pendant 5 ans, le temps de.
Ça, c'est une façon de voir.
Mais donc, la personne, elle dit, ça, c'est une élection super importante, il faut que je participe parce qu'après, je vais pouvoir vivre toutes les élections suivantes.
Ok. Donc, ça, c'est une façon de voir. Ce qu'il faut retenir de cette chose-là, c'est qu'il faut l'écrire. Quelle est la règle majoritaire de ce RIC qui va définir un service public. Voilà. Bon.
Et enfin, dernier
article, la création d'un nouveau service public par voie de référendum est inscrite en tant que loi dans le code des. Alors, c'est très technique. Le service public qui est créé, il est inscrit en tant que loi dans le code qui existe aujourd'hui, qui est le code des relations entre le public et l'administration. Il n'est pas inscrit dans la Constitution. C'est-à-dire que quand on crée des services publics nouveaux, Ils ne sont pas aussi institutionnels que les premiers. Bon, c'est un exemple, c'est un exemple de rédaction juridique qui peut être. Voilà. Bon. Et donc voilà, c'était ça le petit exercice. Maintenant, chacun peut. Maintenant qu'on a bien débroussaillé, et bien vu les tenants et les aboutissants, quand on tire un bout de la ficelle, il y a la pelote qui vient en entier, etc. Chacun peut s'amuser à rédiger à son idée. Voilà.
Il n'y a toujours pas dans ça, moi, la définition de l'intérêt général.
Oui, alors je te réponds parce que j'ai sauté. Elle est inscrite ici. Alors, il faut que je retrouve.
Je veux voir, c'est le critère d'intérêt général est réputé avoir été déterminé par
voilà.
Le positif.
Ah oui, c'est 51.8, voilà, c'est là que ça va. Le critère d'intérêt général est réputé avoir été déterminé par le vote positif des citoyens électeurs. C'est-à-dire, on a dit avant que l'intérêt général, il présidait à la notion de service public. Alors, il y en a qu'on inscrit d'emblée dans la Constitution, parce que ça hérite de quelque chose, mais tout ce qu'on va créer à partir de maintenant, on les crée... Étant donné que là, il y a le 51.3 qui dit qu'un service public ne peut être créé que s'il répond à l'intérêt général, à partir du moment où on a alors notre fameuse énorme majorité de citoyens qui est d'accord pour que l'énergie, par exemple, devienne service public, eh bien, ça fonde l'intérêt général.
Ah oui, d'accord.
Ça, je comprends que le citoyen fonde l'intérêt général, bon, très bien. Mais quid de tous les autres qui ont déjà été définis par avance? On ne dit pas la santé, l'éducation, la perception fiscale. En quoi la perception fiscale, c'est un intérêt?
Voilà, alors c'est ce que... C'est ce que je viens de dire. Bon. C'est-à-dire que ceux-là, ils sont présupposés comme étant hérités du passé.
Oui, mais présupposés hérités du passé, mais pour moi, c'est...
Pour toi, c'est pas service public.
Ça ne définit pas l'intérêt général.
Alors, il faut le remettre au référendum.
Ah, oui, voilà. On les met tous au référendum.
Voilà.
Ouais,
okay. On discute sur la logique de la chose. Bon, ouais. Si on trouve, ouais. Par exemple, tu vois, c'est un exemple. Si Jacques nous apporte la semaine prochaine ou dans un mois, bon, une charte, eh bien, avant de discuter sur l'idéologie, moi, je verrai si tout est cohérent, voilà. Bon. Et là, David, tu me dis un truc extrêmement qui est pas idéologique. Tu me dis oui, mais attendez, quelque chose qui va pas parce que là, on crée des services publics gratuits parce que et en même temps, ça emporte la notion d'intérêt général. Mais on en a défini avant comme ça par avance. Bon, voilà. Alors. Il y a un élément en réponse qui est de dire je ne fais qu'entériner quelque chose qui existe déjà.
Oui, mais,
tu peux très bien dire ça suffit pas, je veux qu'on vérifie bien si tout le monde est bien d'accord pour dire que l'éducation c'est de l'intérêt général. Tu vois, là on est, regarde, on est en plein dans le truc, tu dis Jacques nous dit l'éducation, la santé, il n'y a pas à discuter, c'est l'intérêt général. Et David nous dit, oui, ben moi, je consulterai le peuple pour savoir si vraiment il est
d'accord. D'accord.
Oui, effectivement. On ne rajoute pas le logement.
Non, mais...
Parce que c'est quand même de l'intérêt général d'avoir un toit sur la tête.
Après, tout est possible.
Franchement, il n'y est pas là.
Mais
dans le transport.
On avait dit l'intérêt...
Non.
Comment ça, l'histoire des besoins de Maslow.
Oui, la pyramide de Maslow.
Et la nourriture.
Oui, non mais...
Ah
non
mais tu vois, mais attends...
Nous sommes d'accord, on a entériné ce qui existe déjà, mais on peut très bien dire, ça ne suffit pas, il faut qu'on les vérifie.
Ouais.
Et ensuite,
le minimum,
tu dis le minimum de taux de nourriture ne devrait pas...
En tout cas, ça peut être déjà des sujets de RIC.
Absolument, bien sûr.
Ouais. Allez.
Oui.
Bon, mais c'était un débat sur le service public.
Alors moi, je vais te sortir une toute petite définition de l'intérêt général. Bon, c'est un extrait. Hein. Ils doivent avant tout satisfaire l'intérêt général et donc ne pas recourir à la rentabilité, à la recherche du profit, à la différence des entreprises.
C'est-à-dire, l'intérêt général, ça doit être déconnecté de la recherche du profit.
Alors, écoute, moi je propose de démarrer là-dessus. Là. Ah, mais si, parce que.
Non, parce qu'il n'est pas écrit, ça c'est quelque chose.
Non, ça veut dire.
Il n'est pas écrit dans cet esprit-là, si tu veux.
Non. La définition de l'intérêt général, c'est quelque chose dont il faut qu'on parle. Si on dit que est intérêt général tout ce qui, toute activité qui ne recherche pas du profit, bon, c'est une définition.
Pourquoi pas ? C'est celle que.
Oui, non, mais c'est une définition.
C'est une définition.
Oui, une définition. Alors là, je vais dire que je ne suis pas d'accord, mais bon, c'est une définition qui tient la route en tant que définition.
Mais ça peut être inscrit dans la Constitution pour définir ce que c'est que l'intérêt général. On peut très bien le mettre, ça aussi.
Non, mais
il faut que les gens sachent. Du coup, ça ne pourra pas être interprété d'une façon ou d'une autre.
Oui, tout à fait.
Et voilà.
Oui, tout à fait.
On s'est aperçu que tout était trop flou, donc ça enlève le flou.
Non, mais...
Cette phrase,
est d'intérêt général toute activité qui... ne recherche pas le profit, voilà une phrase qui est extrêmement claire.
Ouais.
C'est clair. Maintenant, réfléchissez bien à tout ce que ça implique. En tout cas, c'est clair. C'est-à-dire que je ne te contredirai pas sur le fait que c'est clair.
C'est déjà
pour vous. Mais au niveau juridique, c'est l'essentiel. Ouais. Juridiquement, ça tient la route.
Bon, mais j'en ai d'autres comme ça.
Ah ben non, tu peux pas. Ah mais c'est simplement un jeu.
Non, c'est pas un jeu. J'ai cherché dans mes sources,
oui.
Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui se posaient aussi la question du service public et qui trouvaient qu'il